Vous allez tous bien? Je vais prier. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta patience. Seigneur, merci parce que nous pouvons nous confier en toi jour après jour. Seigneur, pour que tu te saisisses de nos vies et que tu puisses vivre ta vie en nous, afin que le monde voit qui tu es et ce que tu peux apporter aux hommes et aux femmes qui sont désespérés, qui ont besoin d'être sauvés d'eux-mêmes, sauvés de leurs péchés, sauvés, Seigneur, d'une vie qui n'a pas de sens. Seigneur, merci pour ton amour. Amen. Pour le monde, Noël, c'est une fête de famille. C'est l'occasion de se voir, se rencontrer, de manger ensemble, de s'offrir des cadeaux. Et pour de nombreux chrétiens, Noël, c'est la même chose que pour le monde, avec en plus l'idée que Noël nous apporte un cadeau merveilleux en la personne de Jésus. Mais si c'est tout ce que nous savons sur la venue de Jésus, alors nous n'avons pas une vision très claire du ministère de Jésus sur la terre. Pour les chrétiens qui lisent la Bible, Jésus est beaucoup plus que le cadeau du salut fait à l'humanité. Parce qu'avant de réaliser que nous avons besoin d'être sauvés, nous devons savoir de quoi il faut que nous soyons sauvés. Ce matin, j'aimerais que nous entendions Jésus lui-même nous dire comment et pourquoi il est venu sur la terre et quels effets sa présence a produit sur la terre. Dans les Écritures, lorsque Dieu dit qu'il va descendre, lorsque Dieu descend, c'est parce qu'il y a un problème sur la terre. Dans l'Ancien Testament, Dieu est venu lui-même pour libérer son peuple lorsqu'ils étaient sous l'oppression de Pharaon en Égypte. Dans Exode 3, au verset 7, vous lisez: L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays pour un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. » Dans d'autres circonstances, il a envoyé des prophètes qu'il a missionnés pour avertir son peuple ou les rois que la direction dans laquelle ils s'étaient engagés allait bientôt les priver de la bénédiction de Dieu. Les prophètes que Dieu envoyait non seulement avertissaient de la part de Dieu, mais aussi ils étaient annonciateurs de la venue d'un plus grand prophète, le Messie Jésus. De sorte que quand les Juifs martyrisaient ou tuaient les prophètes, ils étaient déjà en train de persécuter Jésus. Acte 7, 52, « Lequel des prophètes, c'est Étienne qui parle, vos pères n'ont-ils pas persécuté ? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. » La venue du Messie est attestée par les Écritures. Il est dit que Dieu allait envoyer une personne choisie par lui. On le lit dans Deutéronome, chapitre 18, verset 15. « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète, comme moi. » C'est Moïse qui parle. « Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'Assemblée, quand tu disais que je n'entends plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Aussi dans Ésaïe, chapitre 61, verset 1, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pourquoi les religieux de l'époque se sont-ils opposés à Dieu? Alors qu'il leur avait envoyé le prophète qui était promis, Jésus-Christ. Ils savaient que Dieu allait leur envoyer un Messie. Pourquoi ne l'ont-ils pas accueilli alors qu'il leur voulait du bien? Jésus est venu pour les pauvres et pour les malheureux. Pour rencontrer Jésus, il faut avoir compris qu'il est ma seule source de salut. Il faut que je sente ma misère et que je reconnaisse que je suis esclave de Satan. Jésus est venu pour te libérer du joug de l'esclavage, pour te faire passer du royaume des ténèbres au royaume de son amour. Galates 5, 1, vous lisez, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de l'esclavage, de la servitude. Dans l'évangile de Matthieu, à chapitre 15, verset 24, Jésus dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Dieu a envoyé Jésus. Et les Juifs ont refusé Jésus parce qu'ils n'aimaient pas Dieu. Seuls les malades, les pauvres, ceux qui savaient qu'ils avaient besoin d'un médecin ont reçu Jésus. Les autres considéraient qu'ils n'avaient pas de problème ou que leurs problèmes méritaient mieux comme traitement que ce Jésus méprisable. À la fin, à force d'être accusés dans leur conscience, les Juifs ont considéré que Jésus lui-même était un problème et qu'il fallait s'en débarrasser. Est-ce que Jésus est pour nous un problème ou une solution? Jésus n'est pas venu sur la terre parce qu'il trouvait que c'était une bonne idée. Il est venu sur la terre parce que le Père l'a envoyé. Parce que c'était le désir de Dieu. Et cet envoi a été approuvé, accompli et attesté par le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il y a un ordre dans la Trinité. Et bien que chacun des membres, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, est pleinement Dieu, ils exercent des fonctions précises que chacun respecte par soumission mutuelle. La venue de Jésus sur la terre, ce n'est pas une idée à lui. C'est le choix de Dieu. Et Jésus l'a respecté. Jean 7, 28. Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Ou celui qui m'a envoyé est le véritable. Et vous ne le connaissez pas. » Est-ce que nous connaissons le véritable? 1 Jean 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, qui est Dieu donc. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Est-ce que nous l'avons reçu ? Matthieu 10, verset 40. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Est-ce que nous l'avons reçu ? De la même façon que Jésus dit, je ne suis pas venu de moi-même, Jésus déclare qu'il est descendu non pour accomplir sa volonté, mais celle de celui qui l'a envoyé. Jean 6, 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et au verset 42, il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, donc les pharisiens, celui dont nous connaissons, le Père et la Mère ? Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel ? Il connaissait Jésus. Il savait qui il était. Il savait qu'il avait travaillé sur les chantiers avec son Père. Que c'était juste un charpentier, comme n'importe qui. Que c'était pas quelqu'un qui avait fait des études. Que c'était quelqu'un de commun, de banal. Et il nous dit que c'est Dieu qui l'envoie. Tout comme Jésus a été envoyé par Dieu pour accomplir sa volonté, Jésus nous envoie. Jean 20, 21, vous le lirez de votre côté. Pour que nous accomplissions sa volonté. Et sa volonté, c'est que nous allions dans le monde, revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Parce que nous ne pouvons pas aller dans le monde pour représenter Dieu si nous ne sommes pas revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est la condition absolue pour être des témoins de Jésus. Jésus est venu pour apporter l'ordre divin sur la terre. Dans Jean 17, Jésus a prié pour que l'unité règne entre les disciples comme elle règne dans la Trinité. Qu'ils soient un comme nous sommes un. Pourtant, Jésus est un diviseur. Matthieu 10, 35. « Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. » Ce n'était pas l'intention de Jésus de diviser, mais à chaque fois que dans une communauté ou dans une famille, un membre se convertit pour véritablement suivre Jésus, cela crée une division. Et parfois, ça produit de la persécution. À la Réforme, les protestants se sont mis à lire la Bible. Les catholiques les ont persécutés. Et les familles, mais aussi des nations entières, se sont déchirées. Aujourd'hui encore, à cause de la foi en Jésus, des sœurs, des parents, des enfants sont en froid et ne se parlent plus. Pour Jésus, la famille, ce n'est pas celle de la chair et du sang, mais celle qui est unie par l'Esprit de Dieu. Jésus dit, « Qui sont ma mère et mes frères ?» lorsqu'on lui a dit, « Ils veulent te voir. » Matthieu 12, 50, « Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Dans l'Église, c'est la même chose. Ce n'est pas parce qu'on partage les mêmes idées que celles de notre groupe ou de notre dénomination ou de notre moniteur d'école du dimanche qu'on est unis. On est unis seulement lorsqu'on partage l'Esprit de Christ. Et comme le dit l'apôtre Paul, Christ n'est pas divisé. Mais selon Jésus, la division vient lorsqu'il y a confusion entre l'esprit de Christ et l'esprit de Satan. Matthieu 10, 24, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison ? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts, ni de secrets qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Les pharisiens avaient accusé Jésus de chasser les démons par la puissance de Satan. C'est ça qui causait la division, n'est-ce pas? Ce n'était pas le fait que Jésus chasse les démons. C'était le fait qu'il confonde Dieu avec Satan. Et c'est ça qui fait la désunion dans l'Église, lorsqu'on se trompe sur la nature profonde des choses. Bien-aimés, Dieu est un Dieu d'ordre. Et l'unité dans l'Église n'existe qu'à la condition que l'Esprit de Christ soit présent et reconnu dans l'Église. Éphésiens 4:4, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Dans Jean 9, 39, Jésus dit « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Est-ce que nous voyons les choses telles qu'elles sont spirituellement vraies? Ou est-ce que nous les voyons telles que nous aimerions qu'elles soient? Ceux qui sont sous ce jugement de Jésus ne voient pas la réalité. Leurs yeux spirituellement sont fermés et leurs fruits sont indignes du royaume de Dieu. Une autre raison pour laquelle Jésus est venu, c'est pour révéler l'ignorance de ceux qui croyaient connaître le Père. Dans Jean 8, 14, vous lisez, Jésus répondit aux pharisiens, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens, ni où je vais. » Les rabbins critiquaient Jésus parce qu'il parlait de lui-même et il disait « Je suis la vérité ». Il disait « C'est moi la parole ». Et ça, ils ne pouvaient pas le supporter parce que dans leur cercle, ça ne se faisait pas. Ils avaient une forme de fausse modestie qui interdisait qu'on parle de soi-même. Et donc, Jésus parlait de lui-même, et c'est pourquoi Jésus leur dit « Je rends témoignage de moi-même, et à cause de ça, vous ne me croyez pas. Pourtant, mon témoignage est vrai. » Jésus est venu pour révéler aux religieux leur ignorance de Dieu, mais ils ne l'ont pas écouté, parce qu'ils ont jugé Jésus charnellement. Un jour, un homme est venu de la part de Dieu, chez les religieux. Et il leur annonçait qu'ils faisaient fausse route. Il leur a montré en détail à quel point ils étaient dans l'erreur. Il les a exhortés à se repentir et à se rapprocher de Dieu, à le chercher, à le connaître véritablement et à marcher dans l'obéissance et la sainteté. Ces hommes, plutôt que d'accepter la parole de Dieu, se sont énervés et ont fini par le tuer. Cet homme, c'était Étienne. Vous lisez son histoire dans Acte 7. Et cela ne vous a pas échappé, son histoire est une répétition de ce qu'a vécu le Seigneur Jésus lui-même. Cela montre que Étienne était animé par l'Esprit de Dieu. Même discours, même résultat. Si nous sommes héritiers de Christ, nous sommes habités par le même Esprit qui habite Christ. Notre but est le même que celui de Christ. Nos intentions sont les mêmes que celles de Christ. Nous voulons que Dieu soit glorifié. Et si, comme Étienne, nous parlons comme Christ, nous prenons les mêmes risques, la persécution, voire la mort. Jean 5, verset 43. « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. » Les leaders religieux juifs s'invitaient dans les synagogues et ils se glorifiaient les uns les autres. Ils citaient les rabbins d'autrefois, mais ils n'avaient pas reconnu le plus grand enseignant au milieu d'eux, qui était Jésus. Entre rabbins, ils pouvaient se parler d'égal à égal. Mais Jésus n'a jamais voulu échanger sur cette base d'égalité avec les rabbins. Rappelez-vous l'entretien avec Nicodème. Nicodème voulait parler sur une base d'égalité. Jésus n'a pas voulu parler de cette façon-là avec Nicodème. Si les prophètes sont persécutés, c'est parce qu'ils parlent non pas sur une base d'égalité, mais parce qu'ils parlent de la part de Dieu. Et dans ce cas, ceux qui écoutent, qu'ils soient rabbins ou autre chose, n'ont que deux choix. Résister ou obéir. Pour leur montrer à quel point ils sont ignorants de Dieu, Jésus affirme aux religieux que malgré une lecture assidue des Écritures, ils n'ont pas reconnu le Messie de Dieu. Alors que Moïse lui-même l'avait prophétisé, on l'a lu dans Deutéronome 18:15. L'espérance de la vie éternelle est expliquée dans les Écritures. Mais la vie éternelle ne se trouve que en Christ. Il n'y a pas de salut dans les promesses de Dieu. Mais il y a le salut dans le Dieu de la promesse. Je vais illustrer ça aussi bien que je peux. Ceux qui aiment les belles voitures, par exemple, lorsqu'ils s'apprêtent à en acheter une, c'est parce que pour eux, la voiture qu'ils convoitent, c'est une belle promesse. Mais ils ne mettent pas leur foi dans cette promesse. Ils mettent leur foi dans la marque, celui qui est le concepteur de cette voiture, dans l'esprit de la marque, à laquelle ils attribuent depuis longtemps les plus belles qualités. Les pharisiens sont ceux qui glorifient la voiture au lieu de glorifier le Créateur. Jésus est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Jean 10:10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus est venu pour nous garantir une vie abondante, c'est-à-dire une vie qui coule de façon éternelle. Beaucoup vous vendent la promesse d'un Christ qui va régler tous vos problèmes. Il y a des problèmes qui se règlent lorsqu'on rencontre Christ, mais il y a aussi des problèmes qui apparaissent. La vie abondante, c'est la promesse d'une vie reliée en permanence à la vie de Dieu. Un fleuve d'eau vive. Dans Jean 7:38, vous lisez cela. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Est-ce que c'est quelque chose que nous vivons tous les jours? L'eau vive, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. C'est la différence que Jérémie le prophète, fait entre les citernes crevassées et les courants d'eau. Jérémie 2:13. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Nous ne sommes pas appelés à vivre en espérant nous désaltérer à des citernes crevassées qui promettent beaucoup, mais qui finalement nous déçoivent. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont déçus de leur vie chrétienne et qui ne le disent pas, qui le cachent. Beaucoup, beaucoup. Et ce n'est pas normal, parce que ce n'est pas ça la promesse que Jésus nous a faite, n'est-ce pas? Des fleuves d'eau vive couleront de votre sein, pas dans 150 ans, lorsque vous serez mort. Aujourd'hui, est-ce que c'est le cas? Si ce n'est pas le cas, alors il faut se tourner vers Dieu et lui demander pourquoi ce n'est pas le cas. Parce que c'est marqué dans la Bible. N'est-ce pas? C'est Corinne Ten Boom qui prenait la Bible et qui l'a montrée à Dieu et qui lui disait « C'est marqué, je veux le vivre ». Nous sommes appelés non seulement à boire à la source, mais aussi à la partager et à y demeurer. En guise de conclusion, j'aimerais vous partager cette magnifique vision d'Ézéchiel concernant l'eau qui s'écoule du temple de Dieu et qui est une image du Saint-Esprit qui s'écoule dans nos vies. Ézéchiel 47. C'est donc la vision du temple où Ézéchiel est emmené pour une visite. Et il voit les choses du temple futur. Il me ramena vers la porte de la maison. On va lire de 1 à 9, mais réellement, il faudrait lire tout le chapitre. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres, de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaim. On étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis. Ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent et sur ses bords, de chaque côté croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Nous recevons, lorsque Jésus est venu pour nous donner l'abondance, n'est-ce pas ? La vie en abondance. Et cette abondance, nous la recevons, que nous recevons, ce sont les eaux vives de Dieu. Et nous recevons cela par la foi. C'est par la foi que nous nous engageons dans la vie de l'Esprit qui coule du trône de Dieu. Lorsque nous nous engageons dans ce courant d'eau dont parle Ézéchiel, ce courant qui devient comme un torrent, c'est encore par la foi. Il y a des hommes qui ne veulent pas nager. Ils veulent pouvoir garder contact avec la terre, garder pied constamment, parce qu'ils pensent que c'est mieux pour eux de garder le contrôle de la situation. Mais ceux-là ne verront jamais les fruits de ce torrent d'eau vive. Ils ne verront pas les bords du torrent bordés d'arbres. Ils ne verront pas l'eau vive entrer dans les eaux de la mer morte et produire la vie, là où il n'y avait que la mort et la désolation. Ils ne verront pas les pêcheurs étendre leurs filets et attraper des poissons de toutes sortes. Ils ne verront pas les arbres produire des fruits qui serviront de nourriture et dont les feuilles serviront de remède. Tout cela sera interdit à ceux qui ne se laissent pas emporter par ce courant d'eau. Bien-aimés, c'est Dieu qui est notre promesse. Et Jésus est venu pour nous révéler la richesse et l'abondance qui coule du trône de la grâce de Dieu. Et cette abondance est aussi notre héritage en Dieu. Les héritiers de Dieu ont accès à tous les trésors et à toutes les promesses de Dieu. L'eau vive est pour nous qui sommes des fils de Dieu. Vous connaissez, pour certains d'entre vous, C.S. Lewis, qui est un auteur anglais, celui qui a écrit Narnia, qui a fait ce film, dont on a tiré ce film, Narnia, qui est passé au cinéma il y a quelques années. Et C.S. Lewis a dit à propos de la venue de Jésus, « Le Fils de Dieu s'est fait homme pour qu'il soit possible aux hommes de devenir fils de Dieu. » Jean 12, 27. « Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Jésus est venu pour qu'il soit possible aux hommes de réellement devenir fils et filles de Dieu. Est-ce que c'est ce que nous sommes ce matin ? Est-ce que nous sommes emportés dans ce courant, ce torrent d'eau de la vie éternelle, ce torrent qui est l'Esprit de Dieu et qui nous emmènera dans l'éternité avec lui ? Que le Seigneur vous bénisse.